êtes sur Radio Droit de l'Enfant 18. Nous accueillons des élèves de CE2 de l'école Auron de Bourges. Nos invités ont fait une enquête pour savoir si les droits de l'enfant étaient respectés dans leur quotidien. Ils ont comparé avec ce que leurs parents ont vécu au moment où la Convention internationale des droits de l'enfant était écrite.
Pour cette première partie, nous accueillons Inès, Hugo, Bilène et Maëlle. Nous allons d'abord parler des droits à l'information et aux loisirs.
Alors, comment s'informent les enfants aujourd'hui ?
On s'informe grâce à la télévision, à la radio, mais aussi avec Internet. On peut se connecter à des sites d'information avec un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette. On peut aussi télécharger des applications comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram pour échanger et partager des informations.
Mais alors, comment faisait-on à la fin des années 80 ? Comment vos parents faisaient pour s'informer quand ils étaient jeunes ?
Eh bien, ils regarderaient le journal télévisé avec leurs parents. Ou alors, ils écoutaient la radio ou ils lisaient des magazines.
Mais à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors, comment faisaient-ils pour communiquer entre eux ?
Ils passaient beaucoup de temps au téléphone, mais ce n'étaient pas des téléphones portables. C'était des téléphones avec un fil et il y en avait un seul dans la maison. Pour connaître la vie des acteurs et des chanteurs, ils lisaient des magazines ou des journaux.
Cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne lit plus de journaux ni de magazines.
Bien sûr que si à l'école, il y a le petit quotidien ou l'école et on apprend beaucoup grâce à ces magazines.
Et puis, nous écrivons sur le blog de l'école pour que nos parents suivent les activités de l'école. Eux, avant, ils écrivaient le journal de leur école qui parfois était vendu, mais ça prenait du temps et ils n'en faisaient pas beaucoup.
Alors, d'après vous, est-ce qu'il était plus facile de s'informer avant ou aujourd'hui ?
C'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de s'informer, mais même pour les enfants.
Eh bien, merci Inès et Bilal. Nous allons donner la parole à Maëlle et à Hugo pour parler des loisirs. Est-ce que vous avez des loisirs ?
Cette année, je ne fais pas de sport, mais avant, je faisais du judo. Dans notre classe, il y a des enfants qui font du foot, du basket, de la natation ou de la danse. Il y en a d'autres qui font du théâtre ou qui jouent de la guitare.
Donc vos loisirs sont des activités sportives comme le basket à Bourges avec l'équipe des tangos ou des activités culturelles. Mais vous ne jouez pas dehors après l'école ?
Eh bien si, moi par exemple, je joue avec ma sœur à inventer des jeux.
Avez-vous des activités qu'on ne faisait pas il y a 30 ans ?
Bien sûr, on joue à des jeux vidéo avec des consoles ou avec une tablette. Mais moi, je n'ai le droit que le mercredi et le week-end. Et c'est limité, jamais plus d'une heure par jour. Il paraît que ce n'est pas bon pour la santé de trop jouer aux jeux vidéo sur l'écran.
Cela veut dire que vos parents n'avaient moins de loisirs que vous aujourd'hui ?
Eh bien non, ils faisaient du vélo. Jouait avec des amis et il regardait aussi la télé, même beaucoup pour certains.
En fait, leurs jeux, ils les faisaient à l'école et ils continuaient après. Par exemple, ils jouaient à la marelle, au chat perché, à la corde à sauter ou des jeux que nous faisons encore aujourd'hui comme le béret, l'épervier ou le loup.
Mais pour vous divertir, est-ce que parfois vous allez à des spectacles ? Y a-t-il des salles de divertissement près de chez vous ?
Pas très loin de l'école, dans notre quartier, il y a le muséum, la médiathèque, le conservatoire de musique, mais aussi le palais des sports du Prado, le cinéma CGR et la patinoire qui va bientôt ouvrir après sa réparation. Il y a donc beaucoup d'endroits pour se divertir.
Merci beaucoup Maëlle et Hugo. Nous allons céder la parole à Romane qui va présenter la prochaine chronique.
Merci. Merci Soani, nous allons revoir de nouveaux invités pour parler des droits à l'éducation et aux droits à la protection. En fait, Romane, nous souhaitions la bienvenue à Bastien, Nila, Ibrahim et Iker. Alors, nous venons de parler des jeux qui sont pratiqués à l'école, à la récréation, mais autour de chez vous. Vous, qui a-t-il comme école et combien en a-t-il ?
Dans le quartier de l'école d'Oron, il y a deux écoles maternelles, celle d'Oron et Herbinière-le-Bert. Il y a notre école, mais aussi deux collèges, Littré et Saint-Exupéry. Pour les plus grands, il y a le lycée Marguerite de Navarre.
Avant, il y avait 30 ans, quand nos parents étaient jeunes, il avait déjà ses écoles, collèges, lycées. Cela n'a pas changé.
Si les écoles n'ont pas changé, le temps d'école est-il le même ?
Aujourd'hui, nous allons à l'école 4 jours par semaine et il y a classe 6 heures par jour. Avant, il y avait en plus le mercredi matin ou le samedi matin. Il y avait donc plus d'écoles.
Je crois même qu'au lycée, il n'y avait que le dimanche sans école. Il en avait le mercredi et le samedi.
Cela veut dire qu'on travaillait plus à l'école avant.
Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait moins d'activités, de découvertes. Par contre, il y avait plus de travail à la maison. En fait, d'après notre enquête, beaucoup d'élèves trouvent qu'il n'y a pas trop de travail à la maison aujourd'hui. Mais avant, nos parents nous ont dit qu'il y en avait beaucoup.
Les conditions étaient difficiles alors ?
Surtout qu'il y avait beaucoup de punitions. Les maîtres ou maîtresses faisaient copier des lignes, mettre les élèves au coin ou faire des tours de cours. Il y a encore plus longtemps, les mauvais élèves portaient le bonnet d'âne ou la langue de bœuf et ceux qui faisaient des bêtises se faisaient taper sur les doigts avec une règle.
Mais aujourd'hui, il y a encore des punitions à l'école ?
Eh bien, pas vraiment. Si jamais les élèves de la classe bavardent plutôt que travailler, le maître leur enlève du temps de récréation pour récupérer le retard. Quand ils se trompent, il n'y a pas de punition. Et pour les élèves qui se comportent bien, ils ont le droit de faire un métier dans la classe, comme distribuer les cahiers, s'occuper du matériel, effacer le tableau, être facteur et bien d'autres choses.
En fait, les maîtres et les maîtresses sont moins sévères qu'avant. Ils nous aident et nous protègent.
Eh bien, merci Nila et Bastien. Comme vous parlez de la protection, j'en profite pour accueillir Ibrahim et Iker pour parler du droit à la protection. Alors, comment être protégé à l'école et par qui ?
À l'école, les maîtres et les maîtresses nous protègent quand on se fait mal ou quand on se blesse. Mais si c'est grave, ils appellent nos parents ou même les pompiers.
Ils nous protègent aussi quand il y a une bagarre ou quand on nous embête. Ils punissent les enfants qui sont violents ou qui nous empêchent de jouer.
En fait, il y a des lois qui protègent les enfants à l'école avant la loi Jules Ferry. A été une première loi permettant à tous les enfants d'aller à l'école, car ce n'était pas obligatoire. Et certains enfants n'allaient pas à l'école et commençaient à travailler très jeunes.
Mais alors, comment sont protégés les enfants en dehors de l'école ? Et qui les protège ?
C'est encore les adultes qui protègent les enfants. Il y a les parents ou les personnes de la famille. En cas d'accident, ils nous emmènent chez le docteur et si c'est grave, on peut aller à l'hôpital.
Une fois de plus, il y a des lois en dehors de l'école qui nous protègent. Les parents sont responsables des enfants. Ils ont des obligations pour bien éduquer les enfants. Après, il y a la police qui est chargée d'arrêter les gens qui font du mal aux enfants et les juges qui appliquent la loi, mais il existe quand même des risques car on ne peut pas tout prévoir.
Pour limiter les risques, il y a la possibilité de faire des exercices. Est-ce que vous faites des exercices liés à la sécurité à l'école?
Il y a des exercices pour s'entraîner en cas d'incendie. Quand l'alerte est donnée, nous devons sortir de la classe et nous ranger sous le préau en attendant les consignes de la directrice.
Il y a aussi des exercices pour lutter contre les attentats, intrusions et les autres risques. Soit on s'entraîne à se cacher dans la classe pour faire comme s'il n'y avait personne, ou on se met tous dans une salle pour être en sécurité.
Merci Ibrahim et Iker. Nous allons pouvoir donner la parole à Talia qui va accueillir de nouveaux invités qui vont nous parler du droit à la santé.
Merci Romain, nous allons recevoir de nouveaux invités pour parler du droit à la santé et du droit à la vie et au développement.
En effet, Talia, nous accueillons avec plaisir. Sakib, Robin, Julie Noir.
Avant de parler ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, nous allons voir ce que l'on peut faire quand on a un ennui de santé. Comment les enfants peuvent-ils se soigner?
Quand on est malade, nos parents nous emmènent chez le docteur. Avec des médicaments, on peut se soigner quand c'est grave, comme se casser un bras. On va à l'hôpital.
Mais il y a aussi des spécialistes pour les yeux, pour les dents ou même pour des problèmes de croissance. Il y a un médecin particulier.
Mais alors, seules les personnes riches peuvent se soigner. Cela doit coûter cher d'aller à l'hôpital quand on passe des radios ou quand on se fait poser un appareil dentaire.
Pas du tout. En France, les frais de santé sont remboursés par la sécurité sociale. Comme ça, tous les enfants peuvent être soignés.
Et ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Aux États-Unis, certaines personnes ne peuvent pas payer ces frais car il faut une assurance. Alors, certains enfants ne peuvent pas être opérés quand ils ont une maladie grave.
Pour éviter ces problèmes, il faut mieux être en bonne santé. Alors, que faut-il faire pour être en bonne santé?
Il faut déjà se coucher tôt pour ne pas être fatigué. Dans la classe, des enfants se couchent à 19h30, d'autres à 20h et certains à 21h. Mais pour être en forme à notre âge, il faut dormir 10 à 11 heures par nuit.
Bien dormir, c'est important pour être en forme, mais aussi pour apprendre, car notre cerveau travaille la nuit.
Bien dormir, mais que faites-vous avant d'aller dormir?
Il faut se doucher et se laver les dents. Il faut être propre pour éviter les maladies.
Dans la classe, des enfants regardent la télévision, d'autres jouent à des jeux vidéo, mais la plupart lisent une histoire seule ou avec leurs parents, et c'est mieux car il faut être les grands avant de dormir.
Merci Sakib et Robin. Nous allons maintenant parler d'un autre droit, car pour être en bonne santé, il faut bien manger.
En effet, Talia, il faut bien manger pour avoir le droit à la vie et au développement, pour bien grandir. Nous allons en parler avec Julie Noir.
Tout d'accord, c'est quoi bien manger? Avez-vous travaillé cela en classe?
Tout à fait, Talia. Bien manger, c'est manger équilibré. À chaque repas, il faut manger des aliments qui appartiennent à toutes les familles d'aliments dans des proportions raisonnables.
Et il faut manger des fruits et légumes tous les jours et aussi des laitages pour voir grandir.
En effet, nous avons étudié l'équilibre alimentaire en lisant les menus de la cantine.
Il est vrai qu'à l'école, il y a une cantine. Combien d'enfants la cantine ?
Beaucoup d'enfants mangent à la cantine dans la classe sur 20, 24 élèves et aussi 18 qui y mangent.
La proportion des élèves qui mangent à la cantine s'élève à 75%. Avant, il y avait moins d'enfants qui mangeaient à la cantine. Aussi, avant, la cuisine se faisait à la cantine, alors que maintenant, les plats sont livrés.
Est-ce que cela veut dire que la nourriture est de moins en moins bonne qualité ? Pour avoir des produits frais ou de qualité, où faudrait faire les courses ? Savez-vous où vos parents font les courses pour acheter de la nourriture ou des vêtements ?
Pour la nourriture, c'est souvent en grande surface ou dans les supermarchés. C'est très prochainement vend au marché.
Pour les vêtements, c'est aussi en grande surface ou dans des magasins en centre-ville. Ou dans des galeries marchandes. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ses courses sur Internet.
Vous voulez dire qu'Internet a changé les habitudes des adultes ?
Oui, tout est plus sûr avec Internet pour commander aussi des plats.
Je suis d'accord avec Noah. Avant, il fallait lire une carte pour se déplacer. Maintenant, on peut utiliser un GPS avec son téléphone portable.
Quand même pas. Vous pensez que cela pourra remplacer les maîtres et les maîtresses pour apprendre ?
Non, quand même pas. Surtout qu'il y a plusieurs adultes dans l'école et plusieurs métiers.
Vous pouvez nous donner les métiers des adultes dans l'école ?
Il est à le maître et les maîtresses, il est aussi les animateurs et les dames de service.
Il y a aussi les ATSEM à l'école maternelle, mais aussi les adultes qui aident les élèves qui ont des difficultés. Avant, il n'y avait pas autant ces personnes dans l'école, il y avait moins d'adultes.
Merci Julina. Nous allons donner la parole à Camille et Perrine qui vont nous parler d'autres droits de l'enfant.
Merci Gabriel. Nous allons recevoir de nouveaux invités pour parler du droit à la non-discrimination et du droit à vivre dans un environnement sain.
Shaïnès, Cameron, Alyosha et Shahed, pour parler de la non-discrimination, il faut savoir ce que c'est. Alors, c'est quoi la discrimination ?
C'est quand on exclut quelqu'un à cause de sa couleur de peau, de son origine ou de sa particularité. C'est aussi quand on se moque et cela peut être blessant.
Alors, est-ce que cela arrive à l'école ?
Oui, ça arrive, on rigole.
Est-ce que l'école peut accueillir un élève handicapé ?
Oui, l'école doit pouvoir accueillir un élève handicapé. Il y a une loi qui permet aux élèves handicapés d'aller dans la même école que les autres enfants. Avant, ils allaient uniquement dans une école spécialisée.
Mais cela ne concerne pas que le handicap. Par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce propos, qui s'occupe des tâches ménagères à la maison ?
Nous avons fait une enquête dans la classe. C'est souvent les mamans qui faisaient les courses et le repas et le ménage. Il y a quelques papas qui aident pour le ménage, mais souvent ils ont beaucoup de travail et n'ont plus le temps de le faire.
Avant, étais-tu les mamans le faisaient.
Cela voudra dire qu'il n'y a que les papas qui travaillent autour de vous dans votre famille. Quels sont les métiers des adultes?
Notre enquête a montré qu'il y avait plus de papas qui ont un travail, mais beaucoup de mamans en ont aussi. Par exemple, il y a des infirmières, des aides soignantes ou des nourrices.
Si j'ai bien compris votre enquête, on peut penser que les mamans travaillent plus que les papas. Mais le plus important, c'est que tout le monde vive dans un environnement sain.
Oui, Perrine, nous allons remercier Cameron et Chahinès pour recevoir Alyosha et Chahed pour parler du droit à vivre dans un environnement sain.
Vivre dans un environnement sain, ce serait vivre sans pollution. Alors, qu'est-ce qui pollue ?
Ce qui pollue, ce sont les engins à moteur, avec l'émission de gaz carbonique. Mais c'est surtout le traitement des déchets qui pollue, surtout si on laisse les déchets dans la nature.
Mais savez-vous ce que l'on fait aujourd'hui des déchets ? Est-ce qu'il y a une évolution du traitement des déchets ?
Aujourd'hui, on trie mieux les déchets qu'avant. On trie le verre, le plastique, le métal, les végétaux. Il n'existe des déchetteries pour faciliter le tri.
Avant, tous les déchets étaient jetés dans la même poubelle et le tri se faisait par des gens qui travaillaient dans une déchetterie. Aujourd'hui, non seulement on trie les déchets, mais on les recycle. Ainsi, on peut fabriquer des vêtements ou des jouets en recyclant le plastique.
C'est très intéressant, mais il existe peut-être d'autres types de déchets qui sont recyclés.
Oui, en effet, il y a le carton, le tissu, mais aussi les déchets organiques. Par exemple, les végétaux pouvant être déposés dans un compost pour qu'ils se déposent.
Comme ça ? Une fois décomposés, ils serviront d'engrais. À l'école, nous avons installé 3 composts pour y déposer les feuilles et les déchets de la cantine, et ils sont déjà remplis. Quand on pense qu'avant, tous les déchets étaient déposés dans une même décharge publique où on laissait tout se décomposer.
Il y a le papier aussi dans la cour. Il y a une grande bonne à papier. Nous déposons tous les feuilles ou les morceaux de papier de toutes les classes quand elle est pleine des gens vidant la vide.
Et que devient ce papier quand il est ramassé?
En fait, il est broyé et travaillé afin de refaire des feuilles de papier pour imprimer des journaux et des magazines. Ainsi, cela évite le gaspillage et permet de préserver la planète que l'homme est en train de détruire petit à petit.
Merci beaucoup Alyosha et Chahed pour votre témoignage. C'est très bien que les enfants puissent participer au recyclage des déchets. Nous terminerons l'émission sur ce message d'alerte et cette nécessité de prendre soin de notre planète.